France Inter.
Le journal vous est présenté par mon ami Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour ma chère Karine, bonjour à tous. À la une, le repentito italien, bientôt en version française. Éric Dupond-Moretti veut créer un statut du repenti plus efficace en France. Nous irons en Italie voir à quoi ressemble ce statut. Éric Dupond-Moretti annonce plus globalement une nouvelle stratégie contre les narcotrafiquants. Le détail de ces mesures dans un instant avec Sarah Guibaudot. Et puis la réaction de notre invité, le sénateur socialiste Jérôme Durain, le président de la commission d'enquête sur le narcotrafic en France. Dans ce journal également, l'autodérision de Joe Biden sur son âge, vous l'entendrez. Et puis le sport en France avec cet après-midi la demi-finale retour de la Ligue des Champions, c'est du football, PSG contre l'OL, la Ligue des Championnes. Et puis, avec ce temps maussade, nous verrons que les maraîchers font grise mine, nous irons vérifier ça au marché de l'Île-Dieu en Vendée. Et pour compenser cette grise mine, il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Invitation au voyage dans la petite maison dans la prairie, la cabane en bois a été reconstruite en Bretagne. Émotion garantie.
Il y a des personnes qui rentrent et qui pleurent, quoi. Et quand on ressort, on a l'impression de prendre une bombe de société en pleine figure. On se dit, mais ouais, mais c'est pas possible, quoi. Cette maison-là, c'est un havre de paix.
Et après ce journal, l'esprit sport, Nathalie Yanetta.
Vous avez besoin de soleil, comme nous tous. Et bien, oui. Alors ça tombe bien, parce que notre invité du jour, le vice-champion du monde de judo, Aurélien Dies, va vous en donner, et pas qu'un peu. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, Nathalie. Enfin, le temps de ce dimanche, Céline Dacosta. Toujours ses averses sur l'est du pays.
Oui, ça continue cet après-midi. Des averses soutenues, surtout sur les Cévennes. On attend de bons cumuls.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Voilà donc un ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui décide de s'attaquer frontalement au crime organisé avec un projet de loi en préparation. Le garde des Sceaux joue donc sa propre partition, alors que Gérald Darmanin poursuit ses opérations Place Nette et que le Premier ministre prépare un nouveau plan Stup. Prochain projet de loi donc d'Éric Dupond-Moretti sur la criminalité organisée. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Chef du service police-justice de France Inter. Eh bien, ça passera par un nouveau parquet national anticriminalité organisée, un PACNO.
Oui, sur le modèle du parquet national financier ou du parquet antiterroriste, ce nouveau parquet donnera plus de pouvoir et peut-être de moyens à la juridiction spécialisée qui existe déjà au sein du parquet de Paris avec 22 procureurs et 9 juges d'instruction pour démanteler les plus gros réseaux et aller chercher leurs chefs, souvent à l'abri au Maghreb ou dans les pays du Golfe. Ce nouveau parquet pourra mieux coordonner le travail des JIRS, les juridictions spécialisées en région, mais les magistrats ont aussi besoin d'enquêteurs, policiers, gendarmes, douaniers qui manquent aujourd'hui.
Alors, outre ce PNACO, Sarah, le garde des Sceaux annonce aussi d'autres mesures qui étaient attendues par les magistrats, comme par exemple l'extension de la cour d'assises spéciale.
Oui, cela veut dire que ce ne seraient plus des citoyens tirés au sort qui jugeraient les règlements de compte, les assassinats liés au trafic pour éviter les pressions. Une association de malfaiteurs liée à la criminalité organisée sera créée, passible de 20 ans de réclusion. Le garde des Sceaux évoque aussi le statut du repenti qui permet d'échanger une protection, un changement d'identité, une réduction de peine contre des informations. Un texte a été voté en 2004. N'est appliqué que depuis 2014 et très peu utilisé, jugé trop restrictif, peu lisible. On a vu des repentis condamnés parfois plus lourdement que ceux qu'ils avaient dénoncés et mis en danger, d'où ce projet de réforme pour rendre le dispositif plus efficace et l'élargir, y compris aux suspects de meurtre.
Le repentito italien, donc version française. En Italie, ce programme de protection existe depuis les années 80. À Rome, Blandine Hugonnet.
Cela fait plus de 40 ans que le pentito, le repenti italien, est reconnu par la loi ici, appliqué spécifiquement aux mafieux à partir des années 90. Et depuis, les cas de mafiosi qui brisent à la fois l'omerta et les liens avec leur clan se sont multipliés. Alors selon la loi italienne, pour le criminel condamné ou incarcéré, qu'il soit complice ou auteur de crime, le statut de collaborateur de justice peut être accordé en échange d'informations. Si elle s'avère fiable, nouvelle, complète et déterminante pour les enquêtes ou les procès, le repenti bénéficie d'une réduction de sa peine et d'une protection de l'État, avec nouvelle identité, nouveau lieu de vie, ainsi qu'une aide économique et à la réinsertion. C'est le programme pensé par le célèbre juge antimafia Giovanni Falcone pour inciter les boss à parler. Aujourd'hui, environ 1 000 000 de repentis et 5 000 membres de leur famille sont sous protection des autorités. Système efficace mais critiqué aussi en Italie par les familles des victimes de la mafia, choquées de savoir les meurtriers libérés et protégés par l'État italien. Rome, Blandine Gonnet, France Inter.
Et bonjour Jérôme Durin.
Bonjour.
Vous êtes sénateur, socialiste, président de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et vous rendrez vos conclusions à la mi-mai. Toutes les pistes avancées ce matin par Éric Dupond-Moretti, est-ce qu'elles sont bien réclamées par l'ensemble des magistrats ?
Oui, tout ce qui est proposé aujourd'hui est bon à prendre. D'ailleurs, c'est des réflexions que nous avons eu l'occasion d'échanger lors des nombreuses auditions que nous avons conduites pour la commission d'enquête. Donc, ce sont des sujets qui sont sur la table. Il est utile de repenser le dispositif de repenti dont on sait qu'il ne fonctionne pas suffisamment bien, il traite pas suffisamment de cas. Nous, on voudrait en France avoir des repentis gentils d'une certaine manière, c'est-à-dire que ceux qui sont les plus gravement mis en cause pour des actes graves ne sont pas pris en compte dans le dispositif. Or, c'est souvent ceux-là qui ont des choses intéressantes à dire. Et pourquoi on a besoin des repentis ? C'est parce que le renseignement humain est très important dans le narcotrafic, parce qu'on sait que technologiquement, nos services d'enquête sont parfois bloqués par des messageries cryptées, par exemple. Oui. Donc, c'est un dispositif qui est utile.
Cette idée du repenti, c'est la solution aussi contre l'omerta qui prévaut donc toujours dans ce crime organisé en France ?
Oui, à condition qu'on règle dans le projet de loi qui est annoncé par le garde des Sceaux quelques problèmes. Aujourd'hui, on n'est pas, et votre...
Sarah Guibaudeau, la chef du service police-justice,
l'a dit, on ne peut pas garantir aux criminels qui voudraient s'associer à la justice d'avoir des exemptions ou des réductions de peine réelles, suffisantes. Il y a un problème de travail aussi entre justice et police, donc c'est un dispositif qui chaote un peu et qui mérite d'être amélioré. Alors, il faut quand même dire que tout ça ne suffira pas, parce que il est parti un peu en solo, notre garde des Sceaux, sur cette affaire. Il y a d'un côté Place Net, où on fait le ménage sur le terrain, et puis, lui veut s'intéresser au haut du spectre, comme on l'appelle dans le jargon du narcotrafic. Ce serait bien que l'État parle d'une seule voix et qu'on ait un plan d'ensemble. C'est un peu le sens de ce qu'on va proposer le 14 mai.
Avec quand vous rendrez vos conclusions, c'est au Premier ministre, Gabriel Attal, peut-être d'arbitrer en ce moment, justement pour choisir entre les différents textes individuels ?
Tout à fait, et puis d'articuler une philosophie de lutte contre le narcotrafic. Gérald Darmanin nous explique qu'il ne faut pas faire de pénal et d'enquête au long cours. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à la proximité, au terrain et au point de deal. Le garde des Sceaux nous parle du haut du spectre. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi du renseignement qui est très utile, qui est du côté du ministère de l'Économie et des Finances, je pense aux douanes ou à Tracfin. Donc, il faut un chef d'orchestre. Et si on veut coordonner, puisque c'est le terme à la mode, il faut une vision d'ensemble et je crois que c'est cette vision d'ensemble qui manque. Donc ce que propose le garde des Sceaux, c'est sans doute utile, mais il faut que ce soit mis en perspective et que ce soit porté par tout le monde.
Vous êtes en train de nous dire que ce que présente ce matin dans la tribune dimanche Éric Dupond-Moretti, ça pourrait faire doublon avec les réformes que vous allez présenter à la mi-mai, le 14 mai je crois.
En tout cas, je pense qu'on ira plus loin et dans une vision plus large et plus coordonnées. Le but du jeu, c'est de répondre aussi, par exemple, à l'inquiétude des magistrats qui avaient été manifestés à Marseille, qui s'était d'ailleurs fait un peu tenser par le garde des Sceaux, qui demande aussi des moyens. C'est-à-dire qu'il faut des dispositifs particuliers, le PNACO, les repentis, les cours d'assises. Puis il faut aussi des moyens ordinaires pour qu'on ne s'en prenne pas seulement aux lampistes, mais qu'on ait vraiment de quoi aller chercher les têtes de réseau qui sont à l'étranger et puis ceux qui pilotent réellement les trafics. Donc c'est un travail d'ensemble.
Ce PNACO, ce projet de parquet spécialisé contre le crime organisé, ça va demander des moyens humains supplémentaires. Il faudra aller les chercher où, ces moyens supplémentaires ?
L'économie de la drogue, c'est 3, 4, 5 milliards d'euros en France. On a des saisies et des confiscations qui peuvent rapporter beaucoup d'argent à l'État. On a de quoi financer, si on tape au portefeuille les criminels, tous les moyens nécessaires. Et de toute façon, soit c'est une priorité nationale et on se met d'accord pour trouver les moyens, soit on dit que le narcotrafic c'est dangereux et on laisse faire. Donc les moyens, ils seront nécessaires dans la justice et dans la police.
Éric Dupond-Moretti plaide aussi ce matin pour une coopération européenne, internationale plus poussée. Que peut-on faire de mieux dans ce domaine ?
Bah, continuer à avoir un échange exigeant avec certains États dont on sait qu'ils ne sont pas toujours coopératifs. C'est le cas du Maghreb, c'est le cas de Dubaï. Donc il faut continuer à mettre là-bas des agents de liaison, des magistrats de liaison, des douaniers pour faciliter les procédures et encourager ces États à nous aider à rapatrier chez nous les auteurs de crimes qui sont au soleil et qui profitent de leur argent.
Et j'ajoute une première réaction syndicale, l'USM, l'Union syndicale des magistrats, qui dit ce matin approuver la direction des mesures prises par Éric Dupond-Moretti. Un grand merci Jérôme Durin, sénateur merci. Socialiste et donc président de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France. J'ai parlé de repentito, j'ai voulu faire mon malin avec l'italien, je ne parle pas italien, le repenti en français, le pentito tout simplement, pentito pour le repenti italien. Et comme pour illustrer cette actualité, on a appris ce matin à Marseille la mort d'un homme de 19 ans tué par balle sur un point de deal dans le quartier de la Belle de Mai, dans ce qui est très vraisemblablement le troisième narcomicide de l'année. L'an dernier, 49 personnes ont été tuées à Marseille dans la guerre que se livrent les bandes rivales. Un adolescent de 15 ans est mort poignardé hier en fin d'après-midi à Châteauroux dans l'Indre. La victime a reçu plusieurs coups de couteau pendant une bagarre. Jérôme Collin de France Bleu Berry.
L'adolescent a reçu plusieurs coups de couteau au thorax. Les pompiers de l'Indre l'ont d'abord pris en charge dans un état critique et l'ont transporté à l'hôpital de Châteauroux pour se faire opérer. Mais le jeune homme de 15 ans n'a finalement pas survécu à ses très graves blessures. L'agresseur présumé, lui, a été interpellé par les services de police. Selon nos informations, il s'agirait d'un mineur de 17 ans. Il doit être entendu pour éclaircir les circonstances. Est-ce qu'il connaissait la victime hier après-midi ? Impossible de le dire pour l'instant. Le parquet de Châteauroux se contente de confirmer l'ouverture d'une enquête.
Deux voitures de police municipale ont été incendiées dans la cour de la mairie de Givors. C'est dans le Rhône. Cet incendie est considéré comme une réponse de bande après l'interpellation de 5 mineurs liés à une agression.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Aux États-Unis, c'était l'un des événements politico-journalistiques mondains de l'année, le dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche. Et bien devant une assemblée en smoking et robe longue, le président américain est souvent raillé d'ailleurs par un humoriste, hein, c'est devenu une tradition. Et hier soir, lors de ce gala, Joe Biden, 81 ans, a fait preuve d'autodérision sur son âge, tout en égratignant son concurrent Donald Trump.
La campagne 2024 bat son plein. Je parcours tout le pays, Pennsylvanie, Géorgie, Caroline du Nord. Et oui, l'âge est un problème. Je suis un adulte qui est en compétition avec un enfant de 6 ans.
Voilà, Joe Biden hier soir au gala annuel des correspondants de la Maison Blanche à l'hôtel Hilton de Washington. Une centaine de manifestants pro-palestiniens s'étaient d'ailleurs rassemblés devant cet hôtel en entonnant des slogans tels que « Honte à vous » pour dénoncer la guerre dans la bande de Gaza. Notez à ce propos que les négociations avancent lentement sur cette question d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Une délégation du Hamas se rendra demain au Caire pour poursuivre les discussions. Encore un journaliste russe emprisonné pour extrémisme, Sergueï Karline. Il est accusé d'avoir participé à la création de vidéos pour l'équipe de l'ex-opposant mort aujourd'hui, Alexei Navalny. Il est le deuxième journaliste à être ainsi arrêté pour ces mêmes motifs. Enfin, le pape François, qui était à Venise ce matin pour dénoncer le surtourisme. C'était son premier déplacement hors de Rome depuis 7 mois. À 87 ans, l'état de santé de François reste bien précaire. C'est un temps maussade aujourd'hui en France. On va faire un point météo à la fin de ce journal. Presque un temps de Toussaint pour ceux qui sont encore en vacances de Pâques. Eh bien, nous partons à l'Île-Dieu, c'est en Vendée, où les vacanciers, et pas seulement eux, attendent un peu plus de soleil. Ça devrait arriver en milieu de semaine, promet Météo France. Et en attendant, il faut composer avec ce ciel bien chargé. Sur le marché de Port-Joinville, à l'Île-Dieu donc, les maraîchers attendent des jours meilleurs. Reportage signé Yves-René Tapin. tapons.
Dans son cache-cache avec les nuages, le soleil reste pour l'heure bien timide. Bernard, loueur de vélo sur le port, n'est pas franchement débordé.
Les gens sont différents. Ouais. On va dire qu'ils sont un peu timides.
Ils sont frileux avec la météo ?
Bah voilà quoi, voilà. C'est pas ça, ça pourrait être mieux. On risque pas de faire le vide en ce moment. Hein. Mais dès qu'il commence à faire beau, là, ça y est, les gens bougent. Hein.
Un peu plus loin, Virginie qui vend des fruits et légumes a le moral dans les chaussettes.
C'est très compliqué. Malheureusement, la météo nous apporte beaucoup de soucis pour le stock. Il y a beaucoup moins de ventes en ce qui concerne les fruits de saison, comme la fraise. Donc on reste sur des produits comme la clémentine, les agrumes, les pommes, qui sont plus adaptés à nos températures actuelles. Le moral n'est pas forcément au beau fixe, j'avoue.
À quelques mètres, Vincent, lui, ne se plaint pas et pour cause.
Je vends des pâtes, donc c'est la température idéale.
Vincent garde donc le moral.
Les vacances sont décalées entre les Parisiens et les Nantais, donc c'est 4 semaines. Donc moi je me plains pas tant que ça, ça reste correct. Il y a du monde qui vient, il y a les bateaux qui sont pleins, donc c'est sympa. Ça bouge tranquillement entre deux averses, ça le fait, ouais.
Mais avec quelques degrés de plus, ça le ferait encore mieux.
Reportage France Bleu, Loire-Océan, Yves René Tapon. À noter aussi que nos véhicules en France vont encore subir le phénomène des sables du Sahara. À partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi, le ciel français sera encore chargé de ce sable rouge. Le football, il y aura un club français en finale féminine de la Ligue des Champions, pourquoi pas dire la Ligue des Championnes. Ce sera soit le PSG, soit Lyon. Les deux clubs vont se rencontrer cet après-midi, demi-finale. Finale retour. Il y a 8 jours au match aller, les Lyonnaises l'avaient emporté 3-2. L'OL semble donc favori, mais rien n'est fait, tempère l'entraîneuse lyonnaise Sonia Bonpastor.
Ce match retour au Parc des Princes, qui sera un match difficile, on le sait. On a assez d'expérience aussi pour bien appréhender ce rendez-vous. L'Olympique Lyonnais, ça fait des années qu'on est tout là-haut, qu'on gagne énormément de titres et de matchs. Et ce qui fait partie de la réussite, c'est notre mise en question chaque année, chaque saison.
La Lyonnaise Sonia Bonpastor avec Christophe Vincent. Et du côté des Parisiennes, le match qu'elles ont perdu à l'aller peut être surmonté. Totale confiance donc chez l'entraîneur parisien Jocelyn Prêcheur.
On est conscient de la difficulté de la tâche, mais je n'ai absolument aucun doute sur notre capacité à renverser cette situation. C'est même une force, je trouve, qu'on a développée cette saison. Et en tout cas, c'est cette force-là qui me permet de vous répondre avec confiance et en tout cas même certitude sur notre capacité à renverser ce match.
La confiance de l'entraîneur parisien Jocelyn Prêcheur avec Bruno Salomon de France Bleu Paris, PSG-OL, demi-finale retour de la Ligue des Champions. Début du match cet après-midi, il sera 16h au Parc des Princes. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Hier, nous avons dormi dans l'une des maisons les plus célèbres au monde. 5 milliards de téléspectateurs la connaissent. La petite maison dans la prairie, reconstituée, reconstruite par une Bretonne chez elle. Claire Villani a donc construit une réplique de cette ferme des Ingalls. Réplique bluffante jusque dans les moindres détails. Une petite maison dans la prairie que l'on peut visiter et même louer à Campénéac, c'est dans le Morbihan. La cabane est là, au fond du jardin.
Madame Ingalls.
Alors, donc là, vous êtes dans la partie salle à manger, avec le rocking chair, où était Caroline, la cheminée avec le fusil, la pipe, le violon aussi hein, de Charles, la petite chaise aussi de Carrie. On va continuer donc dans la cuisine.
Avec la petite bouilloire.
Voilà, la bouilloire, les pots à lait, la pompe à eau, hein. Pour faire le minimum de toilettes.
Ensuite.
Donc la chambre de Charles et Caroline avec le lit également de Carrie.
Et là, ah oui, des échelles.
Ouais. Quand on monte à cette échelle, on se retrouve dans la chambre de Laura et Marie.
Combien de mètres carrés au total ?
40 à peu près.
40 mètres carrés qu'elle a dû improviser. Les décors de la série ont été détruits.
Sur Internet, on trouve juste des plans comme ça, mais il n'y a pas de dimension. Je me suis basée un petit peu à la hauteur de Michael London pour la hauteur de la maison et sur quelques pas qu'il faisait dans la maison pour pouvoir aussi avoir une certaine dimension.
Non, vous avez calculé les pas ?
C'est ça, les pas, ouais. De la porte d'entrée jusqu'au bout de la cuisine. Et après, je me suis, immergée dans cette maison et je l'ai construite comme moi j'estime qu'elle est.
Moi, ce qui me frappe le plus, c'est tous les petits détails.
Ah oui, parce que moi, je suis quelqu'un de perfectionniste.
Vous avez fait comment ?
J'ai été sur Internet et puis dans les brocantes.
Mais jusqu'à, oui, on voit même le chapeau de Charles.
C'est l'objet que j'ai eu le plus de mal à trouver, c'est le chapeau.
Alors, la famille Ingalls, la maison vous plaît ?
Oui.
Ah, oui.
Alors, il n'y a plus qu'à la construire.
Vous êtes un petit peu amoureuse aussi de Charles.
Ah bah Michael Landon, c'est Michael Landon, hein, ça c'est sûr. Hein. Si on est autant de fans, c'est grâce à lui.
Sauf que Claire est bien plus que fan, elle est même incapable de compter les épisodes qu'elle a visionnés.
Oh là là, mon Dieu, 205 épisodes, deux fois par an pendant 40 ans.
Vous connaissez par cœur les dialogues, là?
Oui, quasi. Je regarde toutes les rediffs, moi. Mais c'est pas grave, ça. On a beau les connaître par cœur, mais chaque moment de notre vie, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, on n'est pas les mêmes. Et à chaque fois, on les regarde avec un œil différent, en fait.
Quand vous êtes toute seule dans cette maison, ça vous procure quoi?
Beaucoup d'émotions, en fait. Parce que c'est une maison qui a une âme.
Et ça, vous avez l'impression que ceux qui viennent visiter le partagent?
Ah oui, oui, complètement. Il y a des personnes qui rentrent et qui pleurent, quoi. Et quand on ressort, on a l'impression de prendre une bombe de société dans la, en pleine figure. On se dit, mais ouais, mais c'est pas possible, quoi. Cette maison-là, c'est un havre de paix.
Voilà, justement, des visiteurs.
Waouh! C'est vraiment identique.
Vous venez d'où?
Dunkerque.
Qu'est-ce que vous ressentez?
Voilà, il faut que j'aille scier du bois donc. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Cet après-midi, la pluie va continuer d'arroser l'est du pays.
Oui, avec des averses soutenues, continues, qu'on retrouve du Languedoc-Roussillon à la région Rhône-Alpes, Franche-Comté jusqu'en Alsace. Elles sont plus intenses sur les Cévennes, où on attend jusqu'à 150 mm d'ici ce soir, ce qui correspond à 3 semaines de précipitations. On a par rapport à ce matin un temps plus sec sur le Var et les Alpes-Maritimes, ça s'arrange un petit peu avec un soleil voilé. Pour la Corse, là, c'est toujours grand soleil. Pour le reste du pays, c'est le retour d'averses orageuses du nord de l'Aquitaine jusqu'à en Bretagne, région centre. Et puis en fin de journée, ces pluies vont gagner l'Île-de-France et la pointe nord. On aura toujours du vent sur le quart sud-est et sur les Hauts-de-France.
Et les températures toujours assez proches des normales de saison.
Oui, c'est vrai, avec une moyenne de 12 à 19 degrés du nord au sud, jusqu'à 20 à Bastia, 26 même à Ajaccio sous le soleil. Et ce type de temps changeant, alternant les périodes pluvieuses et plus ou moins ensoleillées, on va l'avoir toute la semaine prochaine, avec également la même tendance pour les températures.
Céline Dacosta.